Il y a 30 ans, un astronaute très spécial s'envolait dans l'espace. Et moi, je me disais que je pourrais peut-être un jour aussi m'envoler tout là-haut, là-haut.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Le temps a passé. Je ne suis pas devenue astronaute, mais je suis souvent dans la Lune. Et je me demande comment c'est quand on est tout là-haut, là-haut, quand on sort dans l'espace.
On sort après l'ouverture de la porte extérieure du SAS. On accroche son filet de sécurité, puis on se fait plaisir en regardant les étoiles et la Terre. Mais en fait, c'est du début à la fin, c'est du travail, c'est bang, bang, bang du travail.
J'avais peut-être une vision plus romantique de la vie dans l'espace. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme nos petites questions de l'espace en grandes réponses scientifiques et astronautiques. Microsciences, un podcast de la RTS. L'astronaute très spécial, très spatial même, c'est le nôtre. C'est le premier et l'unique Suisse de l'espace. Il s'agit de Claude Nicollier. Il a passé plus de 1000 heures tout là-haut. Et il en est revenu avec des étoiles plein les yeux. Mais alors, c'est du boulot de devenir astronaute. Claude Nicollier s'est entraîné longtemps. Il a d'abord étudié l'astrophysique. Il devient pilote de ligne et sera sélectionné par l'Agence spatiale européenne dans le premier groupe d'astronautes européens. Il décollera à bord de la navette spatiale Atlantis le 31 juillet 1992. Et à quoi on pense au moment du décollage? On frétille.
Bon, étant donné que pendant la montée, il peut y avoir toutes sortes de problèmes auxquels il faut faire face. Et puis, il faut essayer de corriger de façon à soit pouvoir accomplir quand même, malgré les problèmes, la montée comme on l'avait escompté, à savoir arriver, c'est 8 minutes et demie après le départ, à un certain endroit dans l'espace avec une certaine vitesse. Et s'il y a des problèmes, il faut intervenir. Donc, on pense beaucoup à ce qu'il faut faire au cas où tel problème se produit. Et c'est spécialement une panne de moteur qui était crainte. C'est le cas pour les avions également. Croyez-moi, le commandant et le copilote d'un avion de ligne, au moment du départ, eh bien, ils pensent bien à ce qu'ils vont faire au cas où on a une panne de moteur avant la vitesse de décision ou après la vitesse de décision. Donc, on a ces pensées qui sont sur le plan opérationnel et technique, beaucoup. Mais c'est clair qu'à l'arrière-plan, il y a ce début d'une grande aventure.
Ouais, en fait, on est surtout concentré. C'est quand même une sacrée aventure. J'imagine que la veille, on est un peu stressé.
Si on est bien préparé, le niveau de stress est bas. C'est la même chose pour les activités sur Terre ou dans l'air ou dans l'espace. Donc moi, j'ai toujours relativement bien dormi la nuit avant la mission parce que j'avais confiance qu'on pouvait le faire. On espérait évidemment ne pas avoir des problèmes majeurs comme ça a été malheureusement le cas pour quelques-uns de mes collègues. Donc on dort bien. Moi, j'ai bien dormi. Je me réjouissais.
Bonbon. Objectif, mission, on reste concentré. J'essaye, hein. Et alors, cette première mission?
C'était le 31 juillet 1992. C'était une mission relativement courte, une mission de 8 jours. L'objectif était de déployer une plateforme scientifique Eureka, plateforme de l'Agence spatiale européenne, et puis de tester un satellite captif, satellite au bout d'un câble, un petit peu comme un chien en laisse. Et c'était ce qu'on voulait tester. Ça n'a pas très bien marché la première fois. On a refait ça quelques années plus tard. Ça a mieux marché. Mais l'objectif initial était vraiment le déploiement d'Eureka, qui a très bien marché.
Mission accomplie.
On était 7, c'est-à-dire le cas pour pratiquement toutes les missions de la navette. 7 personnes, le commandant, le copilote, l'ingénieur de bord et les 4 autres étaient ce qu'on appelait des mission specialists, chacun ou chacune avec une tâche particulière. Pour cette première tâche, j'étais l'opérateur du bras robotique pour le déploiement d'Eureka.
Je ne sais pas vous, mais utiliser un bras robotique dans l'espace, ça m'échappe un peu. Après tout, on pourrait simplement le télécommander depuis la Terre.
Pour la Station spatiale internationale, il y a une grande partie des opérations robotiques faites depuis la Terre, ça c'est vrai. Mais pour la navette, on était tout près de l'endroit où on intervenait. La soute était à quelques mètres de nous seulement. Donc c'était bien plus naturel de le faire depuis la navette.
Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est plus naturel d'utiliser un bras robotique depuis l'espace à 300 km de la Terre. 300 kilomètres, ça ne paraît pas très loin. Genève-Zurich, en gros. Mais les avions de ligne volent à 10 kilomètres. Et notre atmosphère s'arrête autour des 100 kilomètres. Donc c'est haut. Très haut. Et c'est l'espace. Claude Nicollier a fait 4 missions dans l'espace. Durant la première mission, il vient de nous le dire, il place le satellite Eureka, un satellite qui permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'espace, le rayonnement cosmique ou les débris spatiaux dont les impacts ont laissé plus de 1000 traces lorsque le satellite est ramené sur Terre, 11 mois plus tard. Durant cette mission, avec son équipe, il teste aussi un satellite captif, un test réitéré durant sa 3e mission. Mais ses 2 missions préférées, je le sens, sont celles sur le télescope Hubble. Hubble, c'est un télescope. On en a tous entendu parler. Mais j'avoue que je ne me souviens pas très bien de son installation.
C'est un télescope à miroir, le miroir principal de 2,40 m de diamètre, concave bien sûr, parce que c'est un miroir qui doit transformer un rayonnement parallèle en un rayonnement convergent vers le miroir secondaire, lequel fait une nouvelle réflexion en direction du foyer situé derrière le miroir principal. Bon, tout ça c'est le principe d'un télescope à miroir. Et le miroir principal de 2,40 m de diamètre est un tout petit peu trop plat.
Ah, on envoie un télescope dans le ciel et son miroir est trop plat. Trop plat comment ?
Pas beaucoup, mais 2 microns d'erreur.
50 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu ?
À la périphérie d'un disque de 2,40 m de diamètre, ça paraît mécaniquement une toute petite erreur. C'est presque parfait mécaniquement, mais optiquement, c'était pas acceptable. Et les images étaient floues, donc depuis son déploiement dans l'espace, c'était en avril 1990, jusqu'à notre première intervention, qui était un peu plus d'une année après ma première mission, à savoir en décembre 1993, le télescope était pratiquement inutilisable.
Ouh, c'est moche ça. Et du coup, on fait comment pour réparer un télescope dans l'espace ?
Donc cette première mission avait pour objectif d'installer un correcteur d'optique, échanger les panneaux solaires, des gyroscopes et autres composantes pour rendre le télescope véritablement productif et utilisable, ce qui était le cas.
Hubble est un œil tourné vers notre univers. Pour le réparer, Claude Nicollier doit l'attraper avec son bras télécommandé. Ses collègues sortiront dans l'espace pour fixer littéralement une lentille correctrice sur son œil. Enfin, c'est un peu plus technique que cela, mais c'est le principe. Et c'est grâce à Hubble qu'on a pu établir l'existence des trous noirs. Et qu'on a pu voir les fameux piliers de la création. Vous savez, les pouponnières où naissent les étoiles, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur le Soleil. Claude Nicollier est plutôt humble face à Hubble. Et visiblement, il l'aime tellement, ce télescope géant, qu'il retourne le voir en 1999. Hubble avait besoin d'une réparation. Et pour cette mission, avec son collègue Mike Fall, ils sont sortis dans l'espace pour travailler sur Hubble pendant environ 8 heures. Et sortir dans l'espace, c'est compliqué.
Et si on oublie un outil, bon, on peut pas aller le rechercher parce qu'on doit passer par le SAS et puis la repressurisation et redépressurisation prendrait des heures, donc c'est pas possible. Donc il faut être assez rigoureux, systématique, il faut pas avoir la tête ailleurs, disons, il faut se concentrer, ça demande beaucoup de focalisation. Mais on avait beaucoup entraîné cette sortie, ça a marché, on a eu quelques problèmes, on en a toujours en fait, mais un problème assez sérieux dans l'insertion de cette nouvelle caméra perpendiculairement à l'axe optique du télescope. Avec Mike Fall, on a eu des problèmes de frottement dans le télescope qui font qu'on a perdu une heure à peu près. On a pour environ 8h30 d'oxygène et d'énergie électrique de notre sac de montagne, ou notre life support system qu'on l'appelle dans le dos. Et il faut qu'on accomplisse le travail qu'on attend de nous dans ce temps-là. Et on y est tout juste parvenu. On est resté 8h10 dehors, donc on n'était pas loin de la limite. Mais on a fait ce qu'on attendait de nous. Mais c'est évidemment une expérience extraordinaire, mais c'est du travail. Donc il fallait réussir. Et puis on a fait 5 fois le tour de la Terre pendant les 8h10 de notre intervention. Donc c'est le jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Pendant le jour, évidemment, tout est illuminé par le soleil. Le soleil se couche en 20 secondes environ, passe du jour à la nuit en 20 secondes. Donc on avait toujours un avertissement, 1 minute before sunset, 1 minute avant le coucher du soleil. on enclenchait les projecteurs qu'on avait de part et d'autre de la visière de notre casque, de façon à ne pas être tout à coup devant un trou noir juste après le coucher du soleil.
Pas un vrai trou noir, hein, juste qu'on y voit goutte la nuit dans l'espace.
On continuait de travailler pendant la nuit orbitale qui durait une demi-heure par orbite. Et puis au lever du soleil, on éteignait nos lumières pour garder suffisamment d'énergie dans les batteries pour toute la sortie. Donc voilà, c'est une suite de jours et de nuits, de travail intense. Tout ça, on l'avait entraîné. C'est un petit peu comme du ballet, finalement. Dans le ballet, on n'improvise pas, en fait, tout est préparé.
Un ballet, mais avec un costume qui est un peu plus encombrant.
Oui, ça c'est un élément aussi. Disons, là on est dans le scaphandre qui nous pénalise sous le plan de la mobilité d'une part. Le scaphandre est relativement rigide. Sous le plan de la visibilité également, on ne peut pas regarder vers le haut ou bien vers le bas. Ouais, devant nous, puis un petit peu sur le côté, c'est tout. Donc on est pénalisé de ce point de vue-là. Mais encore une fois, on s'était entraîné en piscine avec le même scaphandre, les mêmes caractéristiques, la même pression différentielle entre l'intérieur et l'extérieur du scaphandre. Simplement dans l'eau, on était gonflé avec de l'air. Dans l'espace, c'était de l'oxygène pur. Et on avait toujours cette pression différentielle qui était maintenue dans l'entraînement en piscine, parce que la pression différentielle a de l'influence sur la rigidité du scaphandre. Imaginez le bonhomme Michelin, si on le gonfle trop, il est totalement rigide. Si on le dégonfle un peu à l'intérieur, il est plus souple. Cette pression différentielle entre l'intérieur et l'extérieur du scaphandre fixe la rigidité. Et ça, à l'entraînement, il fallait qu'on ait une rigidité conforme à ce qu'on allait vivre dans l'espace. Donc tout ça, c'est des détails techniques, mais ça compte, hein.
Jours répartis sur 4 missions, 1000 heures dans l'espace. Je ne peux pas m'imaginer que cela ne change pas un homme, une femme, un terrien, une terrienne. Il y a forcément une heure ou l'autre qui doit être plus marquante.
Pour moi, les missions Hubble, c'était des missions fantastiques, le 23 décembre 1999. Mais du point de vue de la vie du télescope Hubble et de son histoire, je dirais que la première intervention de 1993, bien que lors de cette intervention, je ne suis pas sorti dans l'espace, c'était la plus profonde et la plus significative, parce qu'on a vraiment sauvé le télescope. On n'était pas seul, bien sûr, il y avait toute la préparation, mais c'était une mission qui avait... Pour toute l'exploitation de Hubble, une signification profonde, et pour moi, c'était la plus belle. Par contre, la sortie extravéhiculaire du 23 décembre 1999, je m'en rappellerai toujours, et toucher Hubble avec mes mains, c'était fabuleux.
Et il n'y a pas un astrophysicien, une astrophysicienne dont la vie n'a pas été marquée par les images de Hubble. Je commence à comprendre pourquoi un tel attachement à ce télescope. Mais quand même, comment on se sent physiquement quand on décolle et une fois qu'on est tout là-haut?
Mais je dirais qu'après quelques heures, quand on est habitué à cet environnement, c'est le grand bonheur. Ne plus être contraint à utiliser le plancher, utiliser la totalité du volume disponible, qui n'était pas extrêmement grand dans la navette. On avait le cockpit et la salle de séjour en dessous. Et j'ai fait quelques expériences en me relaxant complètement. Et dans ce cas-là, le corps prend un petit peu la forme d'un fœtus, le corps n'est pas droit, si on se relaxe complètement, on est un peu courbé. Et puis si on se concentre un peu sur ce qui se passe dans notre corps, on sent cette pulsation du cœur à gauche de la cage thoracique qui, une fois par seconde à peu près, envoie le fluide, le sang dans toutes les parties du corps. Donc on sent ce mouvement du fluide vers la tête, vers les bras, vers les jambes. Et c'est un sentiment extraordinaire qu'on n'a jamais sur Terre, parce qu'on a toujours le contact avec le plancher, avec la chaise ou le canapé ou le sofa ou le lit.
Ou le hamac. Et c'est quoi le train-train quotidien dans l'espace?
Bon, on travaille de l'ordre de grandeur de 12-13 heures, on a quelques heures de relax, disons de l'ordre d'une heure et demie à deux heures à la fin de la journée de travail, puis ensuite on dort pendant 6-7 heures, un peu comme sur Terre. Et pour dormir, on a son sac de couchage qu'on installe sur la paroi latérale ou au plafond, généralement pas au plancher, parce que c'est un peu trop conventionnel. Et puis, il faut s'attacher un peu pour dormir. J'ai essayé de dormir en flottant dans la cabine, mais ça marche pas, on n'arrive pas à s'endormir. Il faut qu'on ait quand même un contact avec tout le corps, et puis la tête également avec l'oreiller. Si vous essayez ici sur Terre de dormir sans avoir la tête sur l'oreiller, par exemple la tête en dehors du lit, ça marche pas. Et la tête, ça n'a aucune tendance à s'appuyer sur l'oreiller, alors il faut forcer la tête sur l'oreiller avec une bande de tissu et du velcro. Et dans ce cas-là, on a contact tête-oreiller, on dort mieux. Moi, je dormais bien. La seule nuit qui était généralement pas très bonne, c'est la première, parce que les sensations physiques et psychiques de la montée en orbite sont tellement fortes que quelques heures après, quand on va dormir, on peut pas bien dormir.
Claude Nicollier est bien un humain. Il y a donc forcément quelques petites choses qu'il a détestées.
Bon, je détestais le dernier jour parce qu'on devait rentrer, en fait, si je peux le dire. 10 jours dans l'espace, c'est trop court. 6 mois, c'est un peu long. Ceux et celles qui restent 6 mois dans la station, ils ont envie de rentrer. Donc, on avait accompli notre travail avec un succès à 100%, un peu moins, ce qui était le cas pour la première mission. Mais moi, j'aurais voulu rester parce que 10 jours, c'est trop court.
Dans les voyages professionnels, il y a toujours un moment pour aller faire un tour. Mais alors là, pas de week-end libre. Pas de « faites ce que vous voulez, revenez juste à la navette au moment du départ ».
Oui, on a eu parfois des retards de 24 heures de notre atterrissage. C'est arrivé à mon deuxième vol. Et ça, c'est toujours un plus parce qu'on a fait notre travail et puis tout à coup, on a 24 heures en plus.
Ah.
Alors, il nous donne quelques tâches à accomplir quand même.
Non.
On n'est pas totalement libre, si on peut dire, mais on a une charge de travail qui est sensiblement réduite et là, on peut se faire plaisir. Donc, quand on avait des retards de retour sur Terre pour des raisons de météo, parce qu'on devait avoir une météo convenable pour l'atterrissage en Floride, et si on avait plusieurs jours consécutifs de mauvais temps en Floride, on allait se poser en Californie, à Edwards, sur un lac asséché en haute altitude avec des conditions météo qui sont généralement bonnes. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à certains de mes collègues.
Et dans ces micro-moments de libre, on fait quoi dans la navette?
Disons, on prend pas des romans pour lire, on regarde pas des vidéos quand on est dans l'espace relativement peu de temps. Dans la station spatiale, ils le font de temps en temps parce qu'ils sont 6 mois, donc ils ont beaucoup d'opportunités de voir la Terre. Mais encore une fois, si on a 10 jours et puis on a un jour, on a eu très peu de temps pour voir la Terre et le ciel, et puis on a un jour de plus, je dirais qu'une bonne partie de ce temps de plus était là pour observer la Terre et le ciel.
Ah, enfin! 1 minute pour regarder la Terre. Elle est comment, la Terre? Elle doit être assez grosse, en fait. Quand on est juste à 300 ou 600 kilomètres au-dessus d'elle.
La Terre vue depuis la Lune, par exemple, dans le programme Apollo, c'était une boule bleue et blanche dans le ciel, 4 fois plus grande que la Lune vue de la Terre, puisque la Lune est 4 fois plus petite que la Terre. Nous, on était relativement près, même à 600 kilomètres, les missions les plus élevées de la navette pour le déploiement de Hubble et toutes les missions de maintenance de Hubble. Je dirais que l'horizon était à peu près à 20 degrés en dessous du plan horizontal, si on peut dire. Donc la Terre elle-même, elle occupait une partie relativement importante de tout l'environnement à 360 degrés, si on peut dire. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des vues splendides de la Terre. Tous les passages sur les grandes chaînes de montagnes étaient magnifiques, que ce soit l'Himalaya, les Andes. Pas passé sur les Alpes, parce que toutes mes missions étaient à 28 degrés d'inclinaison de l'orbite par rapport à la Terre. Donc on survolait tout ce qui était compris entre 28 degrés de latitude nord et 28 degrés de latitude sud. La Suisse, c'est 47 degrés, donc j'ai vu la Suisse à l'horizon pratiquement, mais on n'a pas survolé. Par contre, les survols de l'Himalaya est à peu près à 30 degrés de latitude, donc on avait une vue incroyable de l'Himalaya, du Pakistan à la Chine en à peu près 5 minutes, avec la vue absolument incroyable de l'Himalaya. Cette formidable barrière naturelle entre les hauts plateaux du Tibet, essentiellement désertique avec des petits lacs bleus, et puis le nord de l'Inde, très humide, avec les fleuves Gange et Brahmapoutre, c'était fabuleux.
Et le ciel?
Alors on voit des étoiles et des planètes, un petit peu comme depuis la Terre. Par contre, il n'y a jamais de nuages, bien sûr, et de brume. Le fond de ciel est complètement sombre et noir, ce qui n'est pas le cas depuis la Terre. Même si vous êtes en montagne par temps clair, vous regardez le ciel, il y a toujours une espèce de fond laiteux qui est dû à luminescence dans la très haute atmosphère. Puisqu'on est en dehors de l'atmosphère, en étant dans l'espace, le fond de ciel est complètement noir. Et tous les phénomènes qui sont diffus et peu lumineux, comme la voie lactée ou la lumière zodiacale, ressortent de façon extraordinaire. Je recommande ça vivement. Pour ceux qui aiment regarder le ciel, il faut aller dans l'espace.
Et peut-être que la vérité se trouve là-haut?
J'ai compris que la Terre n'est pas plate. Certains pensent que la Terre est plate, mais elle n'est pas plate. C'est une grosse boule. Voir la Terre comme un corps céleste est déjà en soi une expérience extraordinaire, parce que quand on est à la surface, on ne réalise pas que c'est un corps céleste. On voit la Lune, les planètes, le Soleil, les étoiles, et puis ce sont des corps célestes, on le sait. tout spécialement ceux qui sont proches, comme la Lune, c'est aussi une boule, comme la Terre elle-même, mais on observe tout ceci depuis la surface de la Terre et on ne réalise pas que la Terre est un corps céleste, sauf si on va dans l'espace, alors on le réalise. Corps céleste dont on fait le tour en 1 heure et demie, donc en très peu de temps. Donc c'est une toute petite planète, en fait, de la Terre. Elle est toute petite, elle est vraiment très isolée, elle est magnifique et elle est fragile. Ça, c'est les constatations qu'on fait depuis l'espace.
Sauf qu'on y a laissé beaucoup de chenilles avec nos aventures. On doit peut-être voir des débris partout.
Non, on ne les voit pas. En fait, l'espace paraît toujours extrêmement propre. En fait, on a l'impression d'une grande pureté. Mais des débris, il y en a. Mais c'est des débris qui sont petits, pour la plupart. Par contre, on nous a demandé de temps en temps de faire des manœuvres d'évitement, pas au dernier moment, parce que beaucoup de ces débris, il y en a de l'ordre de 30 000 qui sont suivis au radar. Des morceaux de métal, la dimension d'un point, par exemple. Puis de temps en temps, les équipes seules arrivent à la conclusion qu'on allait avoir un débris qui allait passer tout près de nous ou peut-être entraîner une collision 20 orbites plus tard ou 15 orbites plus tard. Et ils nous demandaient de faire une petite correction de trajectoire pour rendre cette distance un peu plus grande. Donc on était un peu menacés par des débris, un peu moins dans les années 90 quand j'ai fait mes vols que maintenant, mais les débris ont augmenté en densité, c'est-à-dire nombre de débris par kilomètre cube, et ça devient un problème, donc il faut aller nettoyer. Ceux qui sont de l'ordre de grandeur de 1 cm de diamètre, ça c'est relativement dangereux parce que c'est pas suivi au radar, et ça peut faire des dégâts. Et si on reçoit ça dans le ventre pendant une sortie extravéculaire, ça pourrait faire des dégâts, ça pourrait percer le scaphandre et l'endommager. Il y en a suffisamment peu pour que ce soit pas une obsession, je dirais, pendant les sorties extravéculaires. On n'y pense pas, si ça arrive, ça arrive. Et puis ce qu'on ferait, c'est le plus rapidement possible retourner vers le sas si on perd la pression d'oxygène pur dans le scaphandre. Mais c'est un problème auquel il faut faire face parce que ça ne s'améliore pas. Un petit peu comme le réchauffement climatique, il faut faire face parce que ça ne s'améliore pas. Les problèmes sont assez similaires en fait. C'est des situations où on n'a pas fait grand-chose pendant des décennies, puis maintenant tout à coup on se trouve devant le mur.
L'espèce humaine a beau déplacer des montagnes, repousser les limites de l'espace, elle se retrouve toujours face à des murs. Finalement, je préfère peut-être être dans la Lune, les pieds sur Terre, et imaginer comme c'est beau, tout là-haut, là-haut. Ils volent à mes côtés et ils sont mes ancrages dans le microcosme de microsciences. Grégoire Moll, copilote, toujours prêt à décoller pour un nouveau sujet. Didier Ressa, satellite du son, réalisateur. Et Jérôme Nussbaum dans la face cachée de l'habillage musical. Si ce podcast vous fait planer, partagez-le sur vos réseaux sociaux préférés, sur Terre ou ailleurs. Et c'est au bout de l'adresse mail microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel, que vous pouvez me poser vos petites questions que je transformerai volontiers en grandes réponses scientifiques. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique. Et je me demande si Claude Nicollier serait d'accord un jour d'aller dans l'espace avec moi.
Non, je ne vais plus y retourner. Maintenant, je laisse les plus jeunes le faire. J'y retournerai volontiers, mais ce n'est pas prévu. Parce que maintenant, il y a les privés qui y vont, les touristes. Donc, je pourrais payer pour y aller, mais je ne vais pas payer pour y aller.